nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La découverte de la grotte Chauvet en France, en Ardèche, en 1994, fut un événement considérable dans l'histoire de la longue chaîne du temps qui unit les hommes entre eux. Elle est considérée comme le joyau de la naissance de l'art au regard de l'extraordinaire qualité des œuvres qui ornent ses parois. La grotte Chauvet, aussitôt découverte, mais jamais ouverte au public, pour la préserver, focalise l'attention précieuse des préhistoriens, des artistes, des historiens de l'art et de beaucoup d'entre nous, pour peu que nous nous considérions comme les héritiers lointains de ces hommes et de ces femmes qui vivaient il y a près de 36 000 ans. Dans cette émission, vous entendrez trois interviews, l'une de Marc Ladret de la Charrière, membre de l'Académie des Beaux-Arts dans la section Membres Libres qui préside l'association de la mise en valeur de la grotte Chauvet. La dite association défend l'inscription de la grotte Chauvet sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme c'est le cas par exemple pour l'Acropole d'Athènes ou les pyramides d'Égypte, et cette démarche peut prendre des mois, voire des années. L'interview fut enregistrée le 6 décembre lors du lancement de la campagne en vue de promouvoir la grotte Chauvet. Vous entendrez aussi l'artiste Michel Barcello qui apporte son regard sur cet art pariétal hors du commun. Et vous entendrez également le préhistorien Jean-Claude pour la partie scientifique, président du comité scientifique pour l'espace de restitution de la grotte Chauvet et pour la demande d'inscription de la grotte Chauvet sur la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO. Bonjour Jean-Claude et merci d'être avec nous aujourd'hui à Canal Académie par téléphone.
Bonjour.
En quoi consiste votre rôle de préhistorien concernant la grotte Chauvet-Pont d'Arc ?
Ah, il est double. J'ai un rôle scientifique en tant que tel, c'est-à-dire que c'est moi qui, au début d'ailleurs, ai fait la première expertise de la grotte Chauvet à la demande du ministère de la Culture. Puis j'ai monté une équipe scientifique qui travaille toujours dans la grotte. Et comme je n'étais pas tout jeune, je me suis engagé à la diriger pendant 4 ans et au bout de 4 ans, à passer le flambeau de la direction de cette équipe à mon adjoint qui était Jean-Michel Geneste. Mais comme nous nous entendons très bien, depuis lors, je continue à travailler dans cette équipe scientifique, à porter mon concours et à faire de la recherche. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je suis, comme vous l'avez dit, président du comité scientifique pour l'espace de restitution et pour la demande à l'UNESCO. Et ce comité se réunit plusieurs fois par an. Il est international. On a des collègues d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne et même de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Et on discute à la fois des projets qui nous sont présentés. Alors, notre rôle, c'est de les valider, mais de dire aussi, quand on n'est pas d'accord, de dire, ben là, non, là, ça ne va pas, il faut changer ci, etc., et éventuellement de faire des propositions.
Les projets concernent des projets de mise en valeur de la grotte ou des projets...
Ça, c'est l'espace de restitution.
De restitution.
Oui, oui, c'est-à-dire que l'espace de restitution, en fait, il y a plusieurs volets. Le clou, ça va être la réplique, donc la reconstitution de la grotte. Tous les panneaux qui seront montrés seront reconstitués à l'identique. Mais il est évident que la grotte étant tellement grande, on ne peut pas reconstituer toute la grotte dans ses moindres recoins. La grotte, je crois, fait 8000 et quelques mètres carrés et l'espace de restitution en fera moins de la moitié. Donc on est obligé de resserrer un peu les espaces. Mais cela étant dit, par exemple, tous les panneaux peints ornés qui seront représentés à la grotte, eux seront représentés à l'identique.
Ah oui, alors on va revenir peut-être un peu ultérieurement sur justement ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, en mai 2012, de ce que sera peut-être cet espace de restitution. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez évoquer pour nous ce que vous avez ressenti en pénétrant dans cette grotte en décembre 1994 après sa découverte par des spéléologues, tout simplement,
ah, ça,
par des amateurs.
Je ne vous dirai jamais. Oui, oui, ça a été une des grandes émotions scientifiques de ma vie. D'abord, la première des choses, il a fallu passer par ce qu'on appelle une chatière, c'est un passage extrêmement étroit, descendait, qui tournait, qui remontait, parce que les spéléologues ont trouvé un passage qui n'était pas du tout celui qu'empruntaient les hommes préhistoriques.
D'accord.
Celui qu'empruntaient les hommes préhistoriques a été colmaté il y a plus de 20 000 ans, peut-être 25 000 ans, par l'effondrement de la falaise, une partie de la falaise. Et les spéléos ont trouvé un petit trou qui donnait dans la voûte, dans le toit, la grotte. On descend par le plafond. Et donc, ce petit trou, il était extrêmement étroit. Et vraiment, heureusement, j'avais fait de la spéléologie dans ma vie. Et j'étais nettement plus jeune, puisque c'était fin 94. Ce qui m'a permis d'y passer. Donc, mon premier sentiment, c'était que vraiment, c'était pas commode du tout. Hein. Alors, après, on descendait avec une échelle spéléo. Alors, ça m'a pas gêné. Une dizaine de mètres dans la grotte. Et là, c'était un peu un éblouissement. Parce que cette grotte, on parle beaucoup des peintures, on parle beaucoup moins.
Comment elle est faite à l'intérieur? Comment?
Des concrétions, justement.
Oui.
Mon impression première, ça n'a pas été les peintures.
Oui.
Parce que quand j'ai débarqué au pied de l'échelle, ben, avec la lampe électrique, j'ai jeté un coup d'œil, tout scintillait, tout était blanc, c'était magnifique.
Oui.
Ça l'est toujours. Avec des stalactites, des stalagmites, etc. Vous voyez, une belle grotte. C'est vraiment une belle grotte. Et après, on est allé voir évidemment les peintures. Et alors là, petit à petit, pas tout de suite, parce qu'au début, ce que j'ai vu, c'était des espèces de gros points rouges, bon, qui sont intéressants hein, à étudier, certes, mais qui ne sont pas extrêmement spectaculaires. Le spectaculaire est venu par la suite. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'on avait affaire à une très, très grande œuvre d'art. Et ça a culminé quand j'étais à ce qu'on appelle le panneau des chevaux. Il y a quatre têtes de chevaux qui sont devenues célèbres. Et là, j'étais envahi d'une très grande émotion.
Oui. Vous aviez déjà vu des peintures d'aussi belle qualité? Vous
oui,
avez tout de suite
oui,
compris
bien sûr,
que...
à Lascaux.
Oui.
Oui, d'aussi belle. Mais vous savez,
oui.
On me dit quelquefois, est-ce que vous préférez Chauvet, est-ce que vous préférez Lascaux? Ça, c'est comme si vous disiez, est-ce que vous préférez Rembrandt, est-ce que vous préférez Van Gogh?
Oui.
On ne peut pas dire. Ce sont des œuvres de très, très, très grande qualité. Et que ce soit à Lascaux, à Altamira ou à Chauvet, c'est le top, c'est-à-dire ce sont des œuvres exceptionnelles, tout à fait exceptionnelles.
Donc il y a ce qu'on appelle le panneau des chevaux, le panneau des félins, il y a tout un bestiaire, hein,
oui.
Un rhinocéros, un hibou, il y a beaucoup de choses, beaucoup de représentations,
oui.
Des représentations animales. Donc...
Oui, actuellement on est à peu près à 430 représentations animales dénombrées.
Ah d'accord. Il y en a un petit peu plus, alors vous en découvrez
oui,
d'autres.
Oui, on en trouve, oui. Par exemple, la dernière campagne,
oui.
Là, c'était au mois de mars.
Oui.
J'ai trouvé une tête de cheval gravée qui n'avait pas été remarquée jusque-là.
Donc ça veut dire qu'on peut encore découvrir des choses à
oui,
la grotte Chauvet.
Énormément, c'est à la marge, hein.
Oui.
Mais qu'on trouve quelques figurations supplémentaires, surtout en faisant les relevés, oui, ça c'est bien possible, oui.
Alors, il y a aussi une extraordinaire silhouette féminine.
Oui.
Dessiné au charbon, ça vous l'avez aussi remarqué la première fois où vous avez visité
tout.
Ça a été plus
pas
tard,
du tout,
ça.
Parce que c'est un bas de corps féminin oui. Où il y a les deux jambes vues de face, le triangle pubien et la vulve bien indiquée. Et juste à côté, à son contact, il y a un homme bison, c'est-à-dire un bison qui a un bras et une main humaine. Et au début, on ne le voyait pas, ça, parce que le sol est intact. Vous voyez, dans cette grotte, il y a des tas d'endroits où le sol est mou,
oui.
c'est un sol sédimentaire, c'est de la terre, et il est intact, c'est-à-dire personne ne l'a touché depuis que les gens sont partis. Alors il y a des charbons, il y a des empreintes d'ours, etc. Donc il n'est pas du tout question que nous y allions, nous avec nos gros sabots, si je puis dire, abîmer ce sol. Alors là, il y a des passerelles qui ont été installées, donc on reste sur ces passerelles, et on ne pouvait pas faire le tour de ce pendant rocheux, donc un peu de loin, on voyait simplement l'homme bison avec une jambe. Et on croyait que cette jambe lui appartenait, tellement que Chauvet, Jean-Marie Chauvet et ses amis, ils avaient surnommé ça le sorcier. Ils avaient appelé ça le sorcier.
C'est ceux qui ont découvert la grotte.
Un bison avec une jambe humaine. Bon, et puis c'est un de mes collègues, Yannick Guillou, qui a eu l'idée de mettre une caméra, un appareil de photo numérique, au bout d'une perche pour faire des photos à l'aveugle.
Ah oui.
Et c'est comme ça que ça a été découvert.
Ah.
Ça, je savais pas. Et donc, c'est lui qui a fait ses photos, et avec un appareil photo au bout d'une perche, et solidement arrivé, bien entendu, et il a fait ses photos à l'aveugle. Et alors, on a fait plusieurs découvertes, d'ailleurs, hein, il n'y a pas que ça. On s'est aperçu que derrière ce pendant rocheux, bon, il y avait ce bas du corps féminin, mais ensuite, il y a un lion, un mammouth, et il y a également un bœuf musqué. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'était la première fois qu'on trouvait une peinture de bœuf musqué dans une grotte préhistorique. Alors, on savait que ça existait à l'époque, hein,
oui.
Puisqu'on a trouvé des os, etc. Et puis, quelquefois, il y en avait qui avaient été représentés sur des objets, ce qu'on appelle l'art mobilier. Mais sur les parois de grotte, on n'avait jamais trouvé. Et là, et c'est vraiment un bœuf musqué, il n'y a aucun doute. Et c'est un animal, le terme savant, c'est Ovibos moschatus. Et c'est un animal qui existe toujours dans le nord de la Norvège, en Alaska, etc.
Que sait-on des habitants de la grotte?
Oui, alors, on sait ce qu'ils ont laissé, les dessins qu'ils ont faits, mais ils n'habitaient pas dans la grotte.
Oui. Hein.
Donc, on n'a pas trouvé leur lieu d'habitat. Ça peut être n'importe où, en Ardèche. D'abord, ils pouvaient vivre tout près, comme ils pouvaient vivre très loin et venir là une fois tous les... Vous savez, comme certains, comme les musulmans vont à la Mecque une fois peut-être dans leur vie. Ça, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Alors, mais il se peut qu'il y ait un habitat un kilomètre de là ou tout près, mais qui n'a pas été découvert.
Donc, c'est vraiment une grotte qui était destinée à cet art et à des pratiques probablement chamaniques.
Enfin,
comment vous les qualifieriez?
Moi, je suis très prudent. Je pense qu'ils avaient une religion de type chamanique. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Dans le cadre d'une religion de type chamanique, il y a toutes les pratiques qu'on a dans toutes les religions. C'est-à-dire des rites de passage, des rites pour guérir les malades, peut-être pour prédire l'avenir, etc., vous voyez.
Oui. Est-ce qu'on a pu reconstituer quelques-uns de ces rituels?
C'est
possible, ça,
hein.
Non. Donc là, c'est notre imagination, émotion.
Ça, c'est impossible. C'est impossible parce que ce sont les actions des gens devant les parois. Alors, ils pouvaient chanter, danser... prier, entrer en transe, etc. Et ça, ça ne laissait pas de traces. Hein.
Oui.
Nous, en tant qu'archéologues, que préhistoriens, on ne peut parler de façon certaine que de ce qui a laissé des traces et étudier ces traces-là.
Bien sûr.
Donc, tout ce qui est chant, danse, etc., ça, on ne l'a pas. Hein.
Alors, qu'est-ce que le préhistorien de la grotte Chauvet, vous et votre équipe, bien sûr, qu'est-ce qu'on a appris de plus?
Ah, on a appris beaucoup de choses. Hein.
Oui.
D'abord, on a précisé les datations. Actuellement, le radiocarbone, on a beaucoup de dates, je ne me rappelle plus si on en a 85 ou 90, ça fait bon. On a énormément de dates. C'est la grotte peut-être, du monde peut-être la mieux datée, la grotte ornée. Hein.
Ah oui,
vous
en avez une 80 à peu près, au moins.
On en avait 80 il y a quelques mois, donc
d'accord.
Je peux qu'on en ait d'autres maintenant.
D'accord.
Oui, donc on a daté, avec le radiocarbone, on a daté des charbons au sol. On a daté les mouchages de torches qui se trouvent, les ravivages de torches qui laissent des traces sur les parois. Ces torches...
Ah oui, elles émettaient de la fumée.
Elles étaient en bois et à certains moments, ben, la torche, il fallait la raviver parce qu'elle n'éclairait plus assez. Et pour la raviver, on tisonnait, comme vous tisonnez un feu de bois. C'est-à-dire qu'on essuie la torche un peu contre la paroi et ça laisse des traces.
D'accord.
Et ça laisse des charbons qu'on peut dater. Bon, et également, on a daté des dessins qui ont été faits au charbon. Et alors, tout ça, ça nous a donné deux périodes très nettes. Une période qui est vers 36 000 à peu près, et une autre qui est autour de 30 000.
Les scientifiques, quelle explication peuvent-ils donner? Est-ce que ça veut dire que la grotte a été inhabitée, abandonnée ou...
Ah oui, mais de toute façon, elle n'a pas été habitée.
Oui, non, mais je veux dire fréquentée.
Ça veut dire qu'elle a été peu ou pas fréquentée, parce qu'après tout, elle a pu être fréquentée une fois ou deux, mais sans que ça ait laissé beaucoup de traces.
Voilà, d'accord.
Nous, on n'a pas daté tous les charbons qu'il y avait dans la grotte, vous comprenez?
Oui.
Donc, s'il y a des gens qui sont passés brièvement, 1 000 ans après, ou 2 000 ans après, ou 500 ans après... Ça, on n'a pas les moyens de le savoir.
Les dessins, enfin, je ne sais pas comment, les œuvres, je ne sais pas comment les qualifier, de moins de 36 000 ans, n'ont pas été abîmées, en fait, après.
Bon, il y en a eu, en fait, on n'en a pas trouvé énormément, hein, dont on est certain. Alors, la majorité des dessins ont certainement été faits au début, lors de la première période. Surtout qu'il y a une grande homogénéité dans les conventions, vous voyez, par exemple, pour prendre un rhinocéros, on a 65 rhinocéros. Bon. Eh bien, ils sont tous dessinés avec les oreilles faites exactement de la même façon. On ne peut pas dire que les oreilles, c'est la partie majeure du rhinocéros. Donc, c'est une convention.
D'accord.
Donc, s'ils sont tous faits de la même façon, il y a peu de chances qu'il y ait des milliers d'années qui soient écoulées entre deux représentations.
Comment est-ce qu'on situe maintenant, aujourd'hui, la grotte Chauvet par rapport aux autres grandes grottes rupestres découvertes récemment, toujours en Espagne? On a daté des peintures encore plus anciennes, de 42 000 ans.
Ouh, ça... Non.
Alors,
non.
Non, c'est faux, ça?
Non, oui, c'est faux, oui.
Ah, alors...
On a daté un charbon. Il y a un charbon.
C'est la grotte de Nerja.
Nerja, oui. Oui, je la connais, la grotte Nerja. Mais dans la grotte Nerja, on a aussi des dates de l'ordre de 20 000, vous voyez.
D'accord.
Et qui ne sont pas, d'ailleurs, des dates directes. C'est-à-dire, ce n'est pas les peintures qu'ils ont datées.
Donc, c'est la fréquentation des grottes.
Oui. Alors, ça ne veut pas dire, parce que quelqu'un est passé il y a 42 000 ans, que c'est cette personne qui a fait les dessins.
Bien sûr, d'accord. Donc,
Et pas plus que ceux qui sont passés il y a 20 000 ans. Vous voyez, achevé. Ce qu'on a, en plus des autres, en quelque sorte, c'est qu'on a multiplié les lignes de recherche. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement on a daté les charbons au sol, mais on a daté un bon nombre, on a daté, je ne me rappelle plus combien, 8 ou 10 dessins, parce qu'on pouvait le faire, et on a daté les coups de torche, etc. Donc, on a plusieurs lignes de recherche. De même qu'on a daté, ça a été nouveau, on a daté les ossements d'ours. On a une trentaine de datations sur des ossements d'ours des cavernes, et un des collègues qui a travaillé là-dessus est un spécialiste de l'ADN, et il a reconstitué le génome de l'ours des cavernes. Bon, à partir de la grotte Chauvet et d'une autre grotte dans la région. Et il s'est aperçu que ces ours des cavernes, dont il a étudié donc l'ADN, avaient très très peu de différences les uns avec les autres. Et il dit, ça c'est tout à fait typique d'une espèce en voie de disparition.
Ah oui.
Or, toutes les dates qu'il a eues, les dernières, c'est il y a 28 000, vous voyez. Donc, ça corrobore les dates radiocarbone qu'on a, nous.
D'accord.
Il y a plusieurs... C'est-à-dire que, dès le début, quand j'ai monté cette équipe scientifique, j'ai voulu qu'il y ait plusieurs lignes de recherche. Que ce ne soit pas juste des gens qui étudient les parois, etc., terminés. Vous voyez, il y a des archéologues qui étudient les sols, il y a des paléontologues qui étudient les ours des cavernes, il y a ce spécialiste de l'ADN, Jean-Marc Elalouf, qui étudie l'ADN des ours. Donc il y a des tas de gens qui ont leur propre ligne de recherche, et ces lignes de recherche convergent. Et il y a évidemment les géologues.
Bien sûr. Alors, je me permets juste de préciser que ce sont des peintures rupestres qui ont été découvertes quand même en Espagne, là, dans la grotte de Nerja.
Ils n'ont pas fait un prélèvement, si vous voulez, sur un dessin qui donnerait une date de 42 000. C'est pas ça.
D'accord.
Ils ont trouvé un bout de charbon qui était sur le sol, au voisinage. Nous aussi, on l'a fait, ça, d'ailleurs. On a fait les deux. C'est pour ça qu'on en fait des quantités. Quand vous en avez 80, bon, même si vous en avez 40 ou 50, ben là, vous êtes à peu près certaine de votre affaire.
Bon. En quoi consistera, justement, l'espace de restitution de cette grotte sur lequel vous travaillez aussi et sur lequel vous recevez des projets? Et oui. Quelle est l'idée centrale? C'est à la fois
L'idée centrale, c'est de montrer au public quelque chose qu'il ne verra jamais, qui suscite beaucoup d'intérêt auprès du public.
D'interrogation,
oui. D'interrogation, oui, bien sûr, mais aussi d'émotion. Et l'espace de restitution, il doit à la fois montrer ces images au public et également les montrer de telle manière que ça crée l'émotion, comme ça crée l'émotion dans la grotte.
Mais vous nous expliquiez tout à l'heure, Jean-Claude, qu'elle était immense, cette grotte.
Enfin, immense. Alors, elle est grande.
Par quelle astuce va-t-on plonger le visiteur dans cette grotte qui est quand même à la fois un retour à nos origines communes?
Oui, c'est-à-dire que les gens vont circuler évidemment sur des voies qui ne sont pas des voies spéléologiques, hein,
oui.
Forcément, parce qu'il y a des règlements d'hygiène et de sécurité qui fait que le public ne peut pas l'exposer à des dangers. Donc les gens circuleront, il y aura des endroits où il y aura suffisamment de place pour qu'ils puissent voir les peintures sans les toucher, bien entendu, de manière beaucoup plus proche d'ailleurs que ce qu'on voit dans la grotte. Et puis, avec les lumières adéquates, etc.
Donc, il y a un parcours olfactif, je crois, qui était prévu.
Alors,
c'est
on en
abandonné.
A parlé, ça, je ne sais pas, il faudra voir. Oui, on a dit aussi, par exemple, qu'on pourrait, c'est dans les projets, ça,
oui.
Ça, il faudra voir ça au moment de la réalisation, qu'on pourrait diminuer la température de quelques degrés, vous voyez, pour donner une impression de fraîcheur aux gens, mais pas va pas recréer la température. Par contre, on n'a pas envie qu'ils attrapent des congestions. Hein.
Comment est-ce qu'on conçoit comme ça un espace de restitution qui parle à tous les visiteurs, enfin, disons aux visiteurs venus probablement, qui viendront du monde entier?
Non, mais il y a plusieurs choses. L'espace de restitution, il y a la réplique. La réplique, elle va être ce qu'est la grotte.
Alors, il y a une réplique.
C'est-à-dire que vous avez le panneau des chevaux, mais le panneau des chevaux, il sera restitué à l'identique. Donc, il n'y a pas épilogué, quoi. On le restitue à l'identique.
D'accord. Voilà.
Bon. Donc, il sera éclairé de telle façon qu'il y ait un peu de mystère ou qu'il y ait des ombres, etc. Mais que les gens ils puissent voir le panneau des chevaux comme nous, on le voit quand on est dans la grotte.
Pédagogiquement, il y aura un effort, j'imagine, de fait particulier. Est-ce qu'il y a la création d'un centre d'études sur place ou pas?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça, c'est une autre partie. Il y aura la partie centre de documentation, en quelque sorte, où là, il y aura les explications. Vous voyez, la réplique, c'est plutôt pour l'émotion et la prise de contact. Le centre de documentation, c'est plutôt pour les explications.
Sur ces répliques, vous faites travailler des artistes, c'est ça?
Oui, oui. En fait, ce sont des spécialistes, bien sûr. Oui. Il y a plusieurs ateliers qui travaillent dessus, qui font du très très bon travail. Parce qu'il faut que... Ça ne tolère pas la médiocrité, vous voyez.
Non, là, il faut être à la hauteur de... du trésor.
Et le rôle, justement, du comité scientifique, c'est d'y veiller.
Mais bien sûr. Qu'est-ce qui vous reste à élucider scientifiquement, à votre avis, concernant la grotte Chauvet, Jean-Claude?
Ce qui reste à faire, il y a plusieurs salles que nous avons complètement étudiées, et il y en a plusieurs qui ne l'ont pas été. Donc, ce travail reste à faire, parce que... Et on ne peut pas, évidemment, préjuger ce qu'on va trouver tant qu'on ne l'a pas étudié. Par exemple, la salle du fond, on a étudié la paroi droite, ça c'est fait, et on a fait des découvertes intéressantes. La paroi gauche, où se trouvent les lions, les rhinocéros, ça n'a pas été encore étudié. Et ça, ce sont des travaux qui devraient commencer, on a fait des demandes, bien entendu, qui devraient commencer l'année prochaine.
Votre prochaine campagne, donc, ça sera...
J'espère, oui. J'espère qu'on pourra commencer à travailler sur la salle du fond.
Et ça sera à l'automne?
Alors,
au printemps?
En général, on a une campagne au printemps et une autre à l'automne. Celle du printemps, elle est plutôt pour travailler dans la grotte et celle de l'automne, elle est plutôt pour mettre tout ça au point.
Parce D'accord.
que on est contraint par les règlements au sujet du gaz carbonique. S'il y a plus de 2,5% de gaz carbonique, on nous interdit d'entrer dans la grotte. Donc, il y a moins de gaz carbonique au printemps. C'est pour ça qu'on essaie au printemps de faire un maximum dans la grotte.
Bon, écoutez, merci Jean-Claude de nous avoir décrit à la fois la grotte, de nous avoir fait partager vos émotions et puis vos préoccupations de scientifiques et cette belle mission qui consiste à nous la présenter, nous et puis tous les visiteurs qui viendront la voir plus tard. Je rappelle que vous avez écrit récemment « La grotte Chauvet ». L'art des origines parmi vos nombreux ouvrages. Jean-Claude, merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame. Au revoir.
Retrouvons Marc Ladret de la Charrière au musée du Quai Branly le 6 décembre 2011. Marc Ladret de la Charrière, vous présidez l'association pour l'inscription au patrimoine mondial de la grotte Chauvet à l'UNESCO.
En fait, c'est l'association de la mise en valeur de la grotte Chauvet. Sur le plan non seulement de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, mais aussi pour participer au rayonnement culturel de cette grotte, et donc notamment sur le plan tant national que sur le plan international. Donc cette association est destinée à retenir en son sein toute une série de personnalités, et je m'honore notamment que M. le chancelier Gabriel de Breuil a accepté de rejoindre le comité d'honneur. C'est l'association pour la mise en valeur et le rayonnement de la grotte Chauvet. Il y a à côté un comité scientifique, mais le comité scientifique est présidé par des experts et paléontologues de cette période.
Qui peut rejoindre cette association?
Alors, tout le monde peut rejoindre cette association. Il n'est pas indispensable d'être ardéchois, on peut être français. Et nous avons déjà des Japonais qui veulent rejoindre cette association. Parce qu'ils sont très intéressés par cette grotte dans la mesure où c'est la grotte la plus vieille du monde. Et deuxièmement, c'est là où est né l'art. Et donc à ces deux titres, ils souhaitent eux aussi nous rejoindre. Mais nous avons aussi des Brésiliens, des Américains. Enfin disons que mondialement, cette grotte va prendre sur le plan culturel une importance très grande. Et donc en dehors de favoriser son inscription au patrimoine de l'UNESCO... seront organisés des colloques, seront organisées des conférences. Et la troisième action de cette association, c'est d'aider tous ceux qui, à un titre divers, veulent collaborer à la mise en valeur de cette grotte.
Donc concrètement, des gens peuvent déposer des projets auprès de votre association, des projets qui visent à soutenir ?
Oui, bien sûr. Tous ceux qui, à un titre ou un autre, souhaitent participer au rayonnement culturel de cette grotte sont les bienvenus.
Qu'est-ce qui vous a stimulé personnellement dans ce soutien ? Vous êtes un grand mécène, donc là, qu'est-ce qui a permis cet engagement de votre part ?
En réalité, ce n'est pas à titre de mécène, puisque la grotte est financée à totalité par l'État, le Conseil général de l'Ardèche, ainsi que le Conseil régional, puisque les sommes sont gigantesques, près de 100 millions d'euros. Donc la raison est très simple, c'est que je suis moi ardéchois de naissance et d'origine, et ce qui fait que ma famille est installée depuis 750 ans dans cette région, et c'est à ce titre, dès que je peux contribuer au rayonnement culturel de ma région natale, à ce moment-là, je me mobilise et je milite.
Là, vous êtes servi par les dieux.
Absolument. Merci beaucoup.
Retrouvons Michel Barcelo pour son regard d'artiste sur la grotte Chauvet. Au téléphone avec nous aujourd'hui Michel Barcelo, peintre, sculpteur, céramiste, qui compte parmi les artistes les plus en vue. Ses œuvres sont présentes sur le marché de l'art contemporain mondial et le public des biennales d'art peut suivre régulièrement son travail en plus des grandes expositions qui lui sont consacrées. Parmi ses œuvres, la décoration de la chapelle Sainte-Pére de la cathédrale de Palma de Mallorca en 2007 et dans un autre registre, la commande de l'État espagnol pour la coupole du Palais des Nations Unies à Genève en 2009. Né sur l'île espagnole de Majorque aux Baléares, vivant et travaillant entre Majorque, Paris et l'Afrique, depuis sa découverte de la falaise de Biandagara au Mali, en pays Dogon, en 1988, Michel Barcelo s'intéresse depuis longtemps à l'art pariétal de la préhistoire. Bonjour Michel Barcelo.
Bonjour.
La grotte Chauvet a été découverte en 1994 dans l'Ardèche. Elle a été fermée au public un an plus tard pour la préserver sur décision de l'État. Tant les peintures de ces parois se sont révélées exceptionnelles. Vous faites partie, Michel Barcelo, du comité scientifique de l'association pour la mise en valeur de la grotte Chauvet-Pont d'Arc pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors vous avez eu la chance de descendre dans cette grotte, de voir ces peintures les plus anciennes du monde à ce jour, moins de 33 000 ans. Quel choc esthétique cela a-t-il été pour vous ?
Oui, c'était un choc énorme. Je crois que si on comptait dans une vie d'artiste des choses qui signifient un choc, des signes qu'on peut marquer, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5, ou 10 peut-être.
Oui.
Et la grotte Chauvet, c'en est un. J'avais visité Altamira, Lascaux, même à plusieurs reprises, et j'ai beaucoup d'autres sites merveilleux. Mais Chauvet, ça va beaucoup plus loin. Au-delà de son ancienneté, qui change tout nos regards, notre perception de l'histoire de l'art, et de, pas seulement de l'art pariétal, surtout l'histoire de l'art tout court.
Oui,
pas
mais bien sûr.
Indépendamment de ça, c'est comme un grand chef-d'œuvre tout court. C'est comme quand on regarde la chapelle Sistine, c'est un grand chef-d'œuvre, mais c'est pareil, c'est presque indifférent quand c'est temps. Mais bien sûr que c'est important, les données, mais... Et c'est la même, un peu pareil avec l'UNESCO. Je crois que la grotte Chauvet est bien plus importante que l'UNESCO comme institution. On n'a pas encore mesuré l'importance de la grotte Chauvet.
On n'a pas de recul suffisant encore.
Mais c'est le recul, je ne pense pas qu'il peut être temporaire, parce que quand on parle de 33 000 ans, n'est-ce pas, tout recul semble ridicule. On parle, nous, on a des mesures très petites.
Oui, à l'échelle humaine.
Oui, il faut surtout le considérer comme le grand chef-d'œuvre que c'est. Et en plus, pour moi, une chose très émouvante, c'est un peu l'intuition que la plus grande partie de ses œuvres sont d'une seule main, d'un seul artiste, n'est-ce pas ?
Mais pour revenir juste un petit peu sur les chocs esthétiques, quels sont, pour qu'on ait une petite idée, quels sont les autres chocs esthétiques que vous avez ressentis ?
Je ne sais pas, la découverte de l'Afrique, la première fois que j'ai vu une grande exposition de Jackson Pollock, de Cézanne,
des choses
comme ça, oui.
D'accord.
Picasso, bien sûr, quand Walt Disney, quand j'avais 10 ans, n'est-ce pas ? C'était un grand choc esthétique, la mort de Walt Disney, bizarrement. J'ai changé Walt Disney pour Picasso en 2 ans, n'est-ce pas ?
Bon.
Mais la grotte Chauvet, je ne la changerai pas. Ça reste quand même une... Au début, la première visite, je me rappelle, je me suis dit, c'est comme de Pisanello, l'empathie avec l'animal et une sorte d'empathie avec le monde animal. Comme vous voyez, nous, en Occident, Et puis surtout dans l'art, dans notre art, on fait une hiérarchie homme-animal énorme depuis, si vous regardez, je sais pas, un tableau de Veronese, oui. Un os de canard, une chose comme ça. À la fin, il y a les grands, les ducas, et les, toute une hiérarchie des grands personnages qui sont invités, qui sont à table. Ensuite, il y a les serveurs. Ensuite, il y a quelques nains. Il y a peut-être un noir. Après, il y a peut-être un singe qui répète, la, n'est-ce pas, qui double une des invités. Et ensuite, on a des chiens et des chats, des animaux. Les plus bas, de, juste après les nains et les noirs, il y a les...
Les animaux.
Les animaux. Ça, c'est toujours en bas de l'échelle de tout point de vue. Ça, c'est à titre décoratif. Et c'est... Et bon, et ça change peut-être un peu. Et du coup, à Chauvet, on a cette perception, enfin, cette lecture un peu... C'est très personnel. Je ne suis pas chercheur, c'est oui. Une vision personnelle. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a une sorte de... Chaque... Et puis, il n'y a pas une humanisation des animaux comme on a fait justement avec Walt Disney, n'est-ce pas ? Les animaux, mm-hmm. C'est comme des hommes. Ils font semblant à faire ce qu'ils font les hommes. Là, il y a une identité de chaque... Si vous regardez les lions ou les chevaux...
Alors, il y a donc des panneaux, pour que je présente aux auditeurs, il y a des grands panneaux, le panneau des chevaux, le panneau des félins, il y a un hibou, il y a tout un bestiaire...
Oui,
qu'avez-vous remarqué, vous?
Les panneaux de félins, vous pouvez compter les lions, c'est des lions femelles, et chacune, c'est une morphologie différente, et une âge différente. C'est comme s'il peignait une famille avec des identités précises.
C'est comme s'il y avait une individualisation des animaux, c'est ça que vous voulez
Alors,
dire?
Je pense que, bien sûr, il peut y avoir une lecture symbolique, de que les lions sont un symbole, bien sûr, c'est pas bien, mais chacune est une lion différente.
Oui.
Ce n'est pas un lion générique qui peint, comme à Lascaux. À Lascaux, c'est un bison générique, à Chauvet, non. Et on est dans une autre peinture complètement différente. On a trouvé maintenant une chose similaire, la même datation en Hongrie, je pense, de la même de 30 000 ans. Moi, je pense que cet artiste, parce que j'ai toujours pensé que c'est un seul artiste, qui a fait la grande partie, n'est-ce pas, tous les grands frises de chevaux et de lions.
Dans, à l'intérieur de la grotte Chauvet, vous pensez qu'il n'y a pas...
Il y a beaucoup d'autres mains, n'est-ce pas, qui ont fait dans des temps très différents pendant quelques milliers d'années, jusqu'à l'effondrement. Mais il y a un artiste qui a fait tous ces grands ensembles de lions, les grands ensembles de chevaux, parce qu'on voit bien que c'est un style unique.
Ça, c'est votre œil qui détermine.
On reconnaît la main et puis mon ami Dominique Baffi a cru même identifier l'artiste, c'est très touchant, parce qu'il a trouvé bien sûr à la grotte, savez, on a des empreintes de la main et des empreintes de pieds de gens qui passaient,
des empreintes,
qui fréquentaient la grotte. Alors on a pu étudier ça, parce que c'est un modèle de conservation de la grotte Chauvet, c'est ça qui est très important de dire. Ainsi qu'il y en a d'autres grottes en France ou en Espagne, c'est le modèle négatif, c'est de grottes détruites par la présence humaine. Et pas, bien sûr, parce
là, il y a tout un effort fait pour vraiment préserver, conserver et expliquer, découvrir scientifiquement exactement la vie dans la grotte et l'histoire de ces parents.
On a réussi surtout à ne pas l'abîmer, n'est-ce pas? Chaque intervention était très minimale juste pour faire cette plateforme.
Même pour les scientifiques, c'est deux fois par an, deux campagnes par an.
Et la grotte se préserve très bien elle-même avec ses gaz et, et ses conditions sont extrêmement pénibles, c'est-à-dire que ça ne permet pas une fréquentation trop... Puis de la même manière que la grotte s'est préservée en fait, avec cet effondrement il y a 20 000 ans.
C'est un miracle.
C'est assez touchant, ça, n'est-ce pas ? C'est comme une boule spatio-temporaire qu'on a là-dedans.
Eh oui, on arrive, on fait un plongeon dans le temps de 36 000 ans.
Oui.
Michel Barcelo, dans vos œuvres, vous introduisez vous-même des matières organiques, vous avez de l'intérêt pour la peinture en relief.
Oui.
Techniquement, qu'est-ce qui vous a ébloui ou séduit, je veux dire, dans ce que vous avez vu à Chauvet ?
Oui,
parce que c'était des pigments
de moyens,
naturels.
Cet usage de l'estompe et tout de suite, mais surtout cette empathie avec l'animal. Moi, j'utilise souvent l'animal comme sujet et je passe la plupart du temps à la campagne, c'est-à-dire au Baléares ou en Afrique, mais avec des animaux. Je suis plus en contact avec des animaux qu'avec des gens, je dirais. Et là, il y a cette sorte d'empathie que je ne connais pas dans l'art, un exemple similaire, n'est-ce pas de... J'appelle empathie, je ne trouve pas les mots qui conviennent encore.
Concordance, quelque chose dont vous vous sentez très proche.
Je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'art occidental d'aucune manière, ni dans l'art oriental d'ailleurs. On ne trouve pas dans l'art tout court cette relation avec l'animal qui est cassée plus tard, n'est-ce pas ? Alors je pense que c'est, on doit apprendre à lire l'histoire de l'art d'une autre manière.
Comme si l'homme ou l'être humain n'était qu'un animal parmi les autres.
Bien entendu, et puis son regard sur les animaux, ce n'est pas ce regard supérieur, n'est-ce pas, hiérarchique, comme je disais tout à l'heure. Je pense que l'histoire de l'art, c'est comme une grande mare tranquille, pas très tranquille, En bas, il y a beaucoup de choses qui s'agitent, mais à la surface, ça semble une mare tranquille. Et le gros caillou qui a été la découverte de la grotte Chauvet, les vagues n'ont pas encore arrivé, n'est-ce pas, à notre perception.
Le tsunami.
C'est énorme, ça va changer à toujours l'histoire de la découverte de la grotte Chauvet.
Ça va tout bouleverser, puisqu'elle
oui.
abrite des décès en perspective. On pensait que c'était absolument impossible. Les historiens d'art avaient codifié, catégorisé
oui,
tout
définitif.
Ça.
Et c'est jamais définitif, c'est une très bonne leçon. Parce que l'histoire de l'art, c'est le regard des artistes qui la modifie, mais c'est une chose qui change en permanence, n'est-ce pas, l'histoire de l'art. Maintenant, le regard qu'on a sur le passé de maintenant, ce n'est pas le même qui sera dans 20 ans. Et c'est très bien comme ça. Et ce grotte Chauvet va changer complètement la manière qu'on a de regarder la naissance, ce qu'on appelle la naissance de l'art, l'art pariétal. On a un peu la même relation avec l'art primitif qu'on avait avec l'art africain, n'est-ce pas? Que l'art, oui, que je connais bien, enfin, et puis qu'il y avait cette relation un peu colonialiste, disons. On avait aussi colonisé, du coup, les artistes d'il y a 15 000 ans, 16 000 ans.
Voilà. Votre vision de l'art vous-même, Michel Parcellos, en est-elle trouvée modifiée?
Absolument, oui, je pense, oui.
Comment?
Mais pas littéralement, c'est pas que j'ai commencé à peindre les chevaux après.
Non, je m'en doute.
Mais j'en peignais déjà avant, j'ai toujours peint des animaux. C'est assez facile de découvrir des animaux dans mon travail. De gorilles, de chiens, déjà au tout début, surtout fin des années 70, début des années 80. Si je peignais l'artiste dans l'atelier, toujours avec un chien, parce que d'un côté c'était vrai, s'il y avait toujours des chiens dans mes ateliers. Mais j'avais même fait... Le premier espoir, ça s'appelait Pintagos, ça veut dire peintre de chiens. Et c'est où il commence, parce qu'il y avait des chiens partout dans mes tableaux. Non, non, Chauvet, cette économie de moyens, la manière d'utiliser toutes les... Comme avec presque le charbon de bois ou noir de manganèse et la stompe, il arrive à faire. C'est une palette magnifique, ça, avec très, très, très peu de moyens. C'est comme il utilise les fonds, comme il se prépare les murs comme un peintre de fresques, n'est-ce pas?
Oui.
Et ensuite, il fait... Et puis, là, vous vous souvenez, ce dessin d'un hibou avec les doigts.
Oui, oui.
C'est une merveille, ça, comme de vitesse et d'exécution. Oui, de compréhension de la matière, n'est-ce pas, et d'utiliser ce qu'on a. Oui, c'est une leçon excellente. C'est une grande, grande leçon de peinture.
C'est des gestes qui sont émouvants pour l'artiste, comme pour celui qui regarde, bien sûr.
Et je pense qu'on voit l'artiste apprendre.
C'est-à-dire... Oui.
On peut voir l'artiste décider des choses sur place, comme on voit chez Cézanne ou chez Picasso. On voit que l'artiste découvre des choses au fur et à mesure. N'est-ce pas? On voit qu'il fait des choses par la première fois, là. Et c'est toujours très émouvant, ça. Parce que votre œil le découvre en même temps maintenant que le peintre a découvert ça, n'est-ce pas?
Et sur quel exemple, par exemple, dans le bestiaire de Chauvet?
Cet hibou, c'est un très bon exemple. Avec
le hibou,
il n'avait pas pratiqué l'hibou. Il apparaît une seule fois, et avec l'épaisseur du doigt, le doigt, c'est la mesure de la plume, de la S. Oui. Après, le profil, la mise en scène, disons, parce que c'est une composition très étonnante, c'est très théâtral, parce que c'est comme des grandes masses de vagues, disons, d'animaux qui vont de droite à gauche, de chevaux, de rhinocéros, de lions. Et du coup, il y a des niches où il apparaît d'autres animaux. C'est vraiment très... On peut imaginer très bien ça avec des torches.
Oui.
Et c'est extrêmement théâtral. C'est comme une pièce de théâtre, c'est une opéra.
C'est un endroit théâtralisé ou bien tout simplement aussi en relation avec l'art sacré, enfin, avec...
Oui, sûrement.
Probablement.
Tout part en tendance au sacré, je pense. Ce n'est pas représentatif au début. C'était pas de représenter comme jamais, presque pas, ça a été l'art, seulement dans quelques courtes périodes où on a besoin d'utiliser l'artiste comme un notaire. Mais là, de tout, on voit que ça dépasse bien sûr tout ça. Là, c'est des grandes questions pour les chercheurs. Mais on imagine très bien les spectateurs découvrant cette chose, pas d'un coup, de commencer la peinture par palier, n'est-ce pas?
Oui,
parce que
par état.
On avance dans les grandes salles. Et du coup, dans une niche, il y a une nouvelle apparition, et la taille change, il y a une espèce d'idée de perspective magnifique. C'est-à-dire, cette succession de rhinocéros, de cornes de rhinocéros, qu'on dirait de Boccioni ou de futuriste. Il y a une sorte d'idée de mouvement aussi qui est très émouvant. Vous voyez, par exemple, il y a un mâle et femelle qui se frotte avant de s'accoupler. C'est une synthèse de moyens, c'est seulement les deux lignes de dos qu'on peut voir là. Oui, c'est très, très touchant.
C'est des peintures, des dessins qui vous laissent sans voix par à la fois donc l'utilisation aussi du relief de la grotte pour augmenter au mouvement. Michel Barcellos, merci beaucoup de nous avoir parlé de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, ce site majeur de l'histoire de l'humanité. Quelle image vous gardez de cette grotte ou du lieu?
Je pense une des choses qui m'a frappé la première fois, c'était la première fois que l'artiste se prend un bout d'ossement, parce que cette grotte était aussi un cimetière d'ours et d'autres grands mammifères. Et on voit les griffes de granure de caverne, que c'est toujours que faisait 3-4 mètres d'auteur.
Oui.
C'est-à-dire entre 4 et 5 mètres, on voit les griffes dues aux ours. Et ensuite, un peu plus bas, on voit la première fois qu'un artiste, que ce n'est pas le grand artiste qui ensuite a fait tous ces grands...
Oui.
La première fois qu'il y avait quelque chose de dur, avec une écaille d'os ou avec une pierre pointue, a gratté, n'est-ce pas, comme un ours, et a utilisé la même technique, c'est-à-dire qu'à partir de l'accident, il a fabriqué, l'image est apparue. Et là, c'est comme un miracle.
Ah oui.
Et ça, c'est une peinture, ce genre de miracle, c'est le même qu'on retrouve dans toute l'histoire de la peinture. Ensuite, on voit comme il prépare son mur pour faire la peinture, comme il gratte ses limons qui recouvrent le mur, n'est-ce pas, pour faire sa peinture avec sa technique d'estompe et de dégradé. Et on voit comme il améliore sa technique au jour le jour. Ça serait bien de faire une fois, comme on fait des datations à 33 000 ans, après on devrait faire une datation au jour le jour, n'est-ce pas? Toute l'histoire de la, oui,
de, procès, oui. De ces traces qui sont sur les parois. C'est oui. Cette image que vous gardez quand vous êtes à la surface, j'allais dire, revenu de la grotte Chauvet.
C'est tout un... Il y en a tellement, c'est 400 images dans la grotte Chauvet. Oui. Mais les lions, je trouve très... Les chevaux, c'est une... Mais justement, je trouve très beau que ces chevaux, ils sont des chevaux, ce n'est pas un cheval qui répète.
Voilà, c'est cette individualisation dont vous nous avez parlé de l'animal tout à l'heure.
Oui.
Merci beaucoup, Michel Barcelo.
Je vous en prie, c'était un grand plaisir.
Vous venez d'entendre Trois regards sur la grotte Chauvet, merveille parmi les trésors de l'humanité, pour sa conservation et sa transmission aux générations futures. Vous avez donc entendu Marc Ladret de la Charrière, Michel Barcelo et Jean-Claude.